Chers auditeurs, chers amis, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la présence d'Olivia Dufour, qui est une journaliste romancière, qui va nous parler de son dernier livre, Vinland, publié aux éditions Bollen. Et également Héloïse Cluzel, qui vient de publier un livre, Victoire à Babylone, récit d'une âme sauvée in extremis, aux éditions EDB. Alors, au fond, nous allons consacrer cette émission à la littérature, bien sûr, mais on y parle d'art, on y parle de la grande tragédie de la vie, de la beauté. Et tout cela est un fil rouge que l'on traverse dans ces deux romans. Et il y a aussi un autre point commun, c'est entre les deux récits, c'est Babylone. C'est ce monde qui a émergé à partir d'un certain moment, même en Europe, dans une vieille civilisation avec toute une profondeur culturelle extraordinaire, et qui sont devenues des villes de la consommation, des villes également de la finance, des villes où tout doit devenir argent, commerce, et au prix parfois très lourd pour tout ce qui est la beauté et la culture. Donc dans la première histoire, c'est une histoire de ville, l'histoire d'une ville. Vinland, c'est ni plus ni moins Venise. Venise qui connaît, qui est en danger. Alors elle est en danger de couler, évidemment, comme depuis toujours, on a peur que Venise disparaisse sous l'eau. Mais aussi un nouveau danger qui est le surtourisme. Et ça pose toutes sortes de problèmes. Et là, Olivia Dufour va nous raconter une histoire policière dont je vous dis tout de suite, vous rentrez dans ce livre, vous terminez à la dernière page sans sauter une ligne, parce que c'est... D'abord, vous vous promenez dans Venise d'une façon extrêmement concrète, mais aussi parce que vous reconnaissez beaucoup de choses qui sont des choses que... Un journaliste, il y a beaucoup d'interdits sur les thèmes que vous abordez dans ce livre. Et donc, il n'y a que les romans qui peuvent dire ce que les journalistes ne peuvent pas dire. Et d'abord parce qu'il y a un plus grand format, et ensuite parce qu'il y a moins d'interdits. Et dans le deuxième roman, nous avons un peu la même chose, sauf que ce n'est pas une ville dont il s'agit. C'est l'histoire d'une âme qui vit à Babylone. Babylone, c'est Paris. Dans cette histoire, que l'on lit comme un roman parce qu'il est très bien écrit, parce qu'il y a tout ce tragique d'une histoire d'âme dans un paysage d'une époque aussi, hein, l'époque des masses médias, l'époque de tout ce qui est communication, et c'est toute une époque qui est décrite dans le livre de Héloïse Cluzel. Et c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire on assiste dans ces deux livres à une descente aux enfers et une remontée et une renaissance. Disons que ces deux livres se finissent plutôt bien. Alors, y a quand même quelque chose qui est important de dire, c'est que le livre de Héloïse Cluzel nous parle d'un phénomène d'aujourd'hui dont on entend parler comme ça dans la presse de temps en temps, c'est celle des conversions. Il y a visiblement des conversions un peu partout, des gens très simples, des gens plus importants, enfin bref, ça atteint toutes les classes de la société, mais aussi toutes les origines. On en parle, mais on ne décrit pas ces phénomènes. Alors, vous avez beaucoup de vidéos sur Internet qui racontent les conversions et qui sont toujours très intéressantes. mais on n'a pas toujours les détails de ces récits. Il faut un livre pour ça, il faut la longueur, il faut 300 pages, 400 pages pour raconter ça. Et donc, on peut raconter ce que le journaliste ne peut pas raconter. Or, cette histoire qui prend la forme d'un roman est en réalité une histoire vraie. Donc, dans la deuxième partie, histoire d'une âme, histoire vraie d'une âme, et vous, dans votre roman, histoire vraie d'une ville, parce que quand vous parlez, vous racontez des choses, des faits très réels, même s'il y a de la fiction dans ce livre. Donc, Olivia Dufour, on va commencer par votre livre Vinland. Et racontez-nous, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire un tel roman ?
D'abord, merci beaucoup pour votre invitation, chère hôte, parce que c'est toujours important de pouvoir présenter son travail et
avec
de pouvoir en
temps,
parler.
Avec du temps.
Sachant que il y a tellement de productions littéraires que voilà, quand on peut essayer de parler de son travail. Alors, Vinland, pour expliquer à vos auditeurs, parce que le mot peut paraître étrange, qu'est-ce que c'est que Vinland ? C'est évidemment une sorte de mot-valise fabriqué sur le modèle de Disneyland. Et c'est le mot qu'utilisent les Vénitiens lorsqu'ils font des manifestations contre le surtourisme pour dire nous ne voulons pas devenir un Disneyland. Nous ne voulons pas devenir donc Vinland. Voilà pourquoi j'ai choisi ce mot, parce que pour les Vénitiens, il a beaucoup de sens et il résume en un seul terme, toute leur souffrance et toute leur inquiétude. Il y a une petite histoire qui court dans les ruelles vénitiennes, personne ne sait si elle est vraie ou pas. Un touriste américain aurait arrêté un Vénitien un soir en lui disant « À quelle heure vous fermez la ville ?» Encore une fois, je le dis à vos auditeurs, parce que comme je suis journaliste de métier, je suis toujours très attentive à ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, donc on ne sait pas si ça s'est réellement produit ou pas. Mais, et c'est le sens, je réponds à votre question, oui, le roman, pour moi, j'envisage mon métier de journaliste comme étant une sorte d'esclavage vis-à-vis des faits. Je ne m'autorise pas à les modifier et je m'applique à les restituer le mieux que je peux. Et au bout de 30 ans de métier, je peux dire que c'est toujours aussi épuisant. Et à un moment donné, j'ai voulu parler de Venise parce que c'est une ville dont je suis très profondément amoureuse depuis que j'ai 18 ans et que je l'ai découverte. Mais j'ai voulu pouvoir en dire ce que j'avais envie d'en dire. Et c'est un petit peu le bonheur qu'il y a à entrer dans la fiction. Ma passion reste de raconter le monde, donc Vinland m'a permis de raconter ce que je voyais et ce qui m'inquiétait à Venise, sans être liée par la réalité, par les faits. Alors tout est vrai dans le livre, parce que j'ai des étagères complètes maintenant d'ouvrages sur Venise. C'est aussi le plaisir d'écrire un roman, c'est qu'il y a tout un travail à faire. Et ça m'a permis de vivre dans Venise et d'apprendre énormément de choses. Donc l'intrigue est fausse, c'est une très légère dystopie, ça se passe 2 ou 3 ans avant le moment où on lit le livre. Mais tout ce qui est dit de la ville est tout à fait exact, voilà. Et l'objectif, c'était de mettre en scène cette réalité du surtourisme et à travers les personnages qui sont pris dans une intrigue policière. Pourquoi une intrigue policière ? Parce que je trouve qu'on a beaucoup de difficultés d'attention avec les sollicitations qui viennent de partout. On reçoit des tonnes de mails, on passe notre temps sur les réseaux sociaux, on est bombardé d'informations, même sur le quai du métro maintenant, on a des messages publicitaires. Et donc on souffre tous plus ou moins de troubles de l'attention. Et en tant que journaliste, la première chose qu'on m'a apprise, c'était de tenir l'attention de son lecteur. C'est une sorte de politesse, d'essayer de lui dire des choses en lui faisant passer un bon moment. Voilà, donc d'où la forme policière. Et l'idée, c'est à travers les personnages, il y a beaucoup de personnages, il y a des hommes politiques, il y a des aristocrates vénitiens, il y a un policier, parce que c'est évidemment un roman policier, il y a des militants écologistes, il y a même un prêtre. Et tous ces gens-là forment ce que j'ai voulu être une sorte de roman choral. À un instant T, qu'est-ce qu'on fait ? pour sauver cette ville et comment chacun, qu'il soit policier, homme politique, prêtre, aristocrate, habitant, dont la famille habite depuis des générations, quel regard il porte et comment ils vivent ce phénomène et qu'est-ce qu'il faut en penser. Parce que ce qui me surprend avec le tourisme de masse, c'est que on interroge à notre époque à peu près tous nos modes de consommation, à raison. La nourriture, le kérosène des avions, les bâtonnets qu'on se met dans les oreilles et qui sont du plastique et qui pourrissent les océans. Mais il reste, et je l'ai découvert en faisant ce travail, un tabou. C'est le tourisme de masse.
Oui, alors c'est ça. Il faut comprendre dans notre société qu'il y a des tabous, alors qu'on croit que tout est libre. On a une illusion de liberté. Il y a des tabous. Et ça, c'est un tabou, c'est-à-dire la façon de traiter la question écologique.
L'écologie dans laquelle, personnellement, je range la beauté. C'est aussi un parti pris du livre. À un moment donné, un des personnages cite Les Racines du ciel de Gary, qui est un roman magnifique que j'aime énormément, pour une raison très simple, c'est que pour Gary, il ne faut pas sauver la terre contre l'homme. Il ne faut pas la sauver de l'homme, il faut la sauver pour l'homme. Et je crois qu'il faut sauver Venise pour l'homme aussi, qu'il faut sauver la beauté, que l'écologie, pour moi, un peu intégrale, elle englobe la beauté dont on a hérité dans l'histoire, parce que la beauté, c'est la grande phrase de Dostoïevski qui est très à la mode à l'heure actuelle, tirée de l'idiot, la beauté sauvera le monde. Moi, je pense vraiment que la beauté sauvera le monde, et je pense en même temps, et malheureusement, qu'elle recule. Et c'est cette inquiétude existentielle qui m'a poussée à écrire ce livre, parce que pour moi, Venise est vraiment un lieu de beauté absolue. J'en reviens là, j'étais encore il y a 3 semaines, et je réfléchissais à pourquoi c'était beau. Et à un moment donné, je me suis dit, je crois que c'est parce que, vous savez, cette fresque de Michel-Ange avec Dieu et l'homme dont les doigts sont sur le point de se toucher, et bien, je pense qu'à Venise, ils se touchent. Je pense que le génie humain et le génie de la nature, que les croyants appelleront Dieu, que moi, personnellement, j'appelle Dieu, se rencontrent là, dans un point d'excellence. Et c'est pour ça aussi que c'était sans doute le lieu pour incarner cette angoisse existentielle que nous avons face à la détérioration de notre planète, mais que nous devrions avoir aussi face à la détérioration de la beauté et au recul de la beauté dans notre société. On le voit un peu partout, les objets deviennent laids, les bâtiments deviennent laids, la beauté n'intéresse plus. Ou en tout cas, on ne se rend plus compte à quel point on en a besoin. Je suis sans doute partie loin de votre question, mais je vous demande pardon.
Mais c'est l'enjeu de ce livre,
oui.
Voilà, c'est ça qui est important. Et alors, vous faites une galerie de portraits, vous le disiez tout à l'heure, qui inclut tout le monde. Mais ces portraits... ce sont aussi des caractères, ce sont des âmes, comment dire, il y a une profondeur dans chacun. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez faire le tour des arguments de chacun. Et aussi pourquoi il aime et pourquoi il s'investit dans cette défense. Et donc peut-être décrivez-nous ce maire pour commencer, et puis après on décrira un petit peu les autres. Quels sont ces arguments pour avoir réautorisé les bateaux à accoster à Venise, qui est un des problèmes majeurs, parce que ces bateaux sont colossaux, ils dépassent tous les bâtiments de...
C'est terrifiant.
C'est terrifiant, c'est quelque chose de terrifiant, c'est monstrueux.
C'est monstrueux. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allée à Venise, j'étais chez les parents d'une amie qui avait un appartement près de l'Arsenal, dans une toute petite rue, et on sort de ce... Non, on était encore dans la ruelle, et d'un seul coup, il faisait un temps radieux, et le soleil est masqué. Et je me dis, c'est curieux, même un nuage ne fait pas cet effet-là. Je lève la tête, et c'était un navire. Parce que Venise est construite, à l'exception du ghetto qui est un petit peu plus haut, ils n'ont pas dépassé 3 étages en raison, on l'aura compris, du sol qui est meuble et sur lequel on ne peut pas peser à l'excès. Donc, ces bateaux qui font 6, 12, 15 étages de haut...
Une pression formidable sur les quais aussi.
Voilà. Alors, précisons qu'ils sont interdits depuis quelques années, on a enfin compris, donc ils n'empruntent plus le canal de la Giudecca. Alors, le maire, qui n'a rien à voir, je tiens à le préciser, avec l'actuel maire de Venise, c'est une pure invention. C'est une pure invention qui me permet de mettre en place la dialectique de ceux qui défendent la ville versus ceux qui pensent qu'il faut continuer de l'exploiter, de la surexploiter commercialement. Donc, le maire, oui, est un petit peu le méchant dans l'histoire. Mais que je n'ai pas voulu caricaturer non plus de trop, parce que je suis allée juste après la fin du confinement à Venise, c'était au mois de décembre, il n'y avait plus un touriste, et c'était terrifiant.
Donc la raison pour laquelle, c'est-à-dire qu'il fallait rattraper les...
Voilà, est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce qu'on peut avoir une vision radicale des choses? Malheureusement pas, parce que Venise, ils sont tombés historiquement sous le niveau des 50 000 habitants, ils sont 49 000, ils n'ont jamais été aussi peu. Le surtourisme, je dis ça encore une fois, c'est pas pour caricaturer, l'image n'est pas de moi, je ne sais plus de qui elle est, d'une spécialiste de Venise. Même les plus grandes pestes n'ont pas entraîné
une telle
chute du nombre d'habitants. Voilà. Alors, c'est pas seulement le surtourisme. Il y a eu une grande inondation dans les années 60 qui a touché toute la ville, et les Vénitiens se sont dit on ne peut plus vivre ici, on peut pas, nos commerces sont dévastés, on ne peut plus. Bon, il y a pas que ça, mais pour revenir, c'est 49 000 habitants, c'est historiquement bas, et c'est entre 20 et 30 millions de touristes. Je ne sais pas si on
c'est
se rend compte.
Absolument vertigineux.
De la folie. Alors, ça veut dire aussi que toute l'économie tient là-dessus. Parce que je me suis un peu penchée sur les recherches universitaires qui ne sont pas légion en matière de surtourisme, justement parce qu'il y a un tabou. Il y a un tabou qu'on peut comprendre. Pour certains, il y a une grande tribune dans Le Monde qui expliquait il y a quelques mois que lutter contre le surtourisme, c'était en fait du mépris de classe. Parce qu'en réalité, ça renverrait au tourisme un peu chic des années du début du 20e siècle, avec l'aristocratie qui allait de Londres à Berlin en passant par Paris, Rome. On allait à l'opéra, on se recevait entre soi. Et puis, dans les années 60, d'un seul coup, tout ça se démocratise. Et mon Dieu, quelle horreur, Madame Michu arrive à Venise et ne va pas à l'opéra. Bon, moi, c'est pas du tout ma perception, bien entendu, du sujet. Mais il y a cette crainte-là. Il y a une autre crainte qui serait une forme de xénophobie. Ce serait une peur de l'autre. Bon, je rappelle quand même qu'il n'y a pas que Venise, il y a Barcelone, il y a énormément de villes en Europe comme ça. Il y a Santorin qui croule sous. On parle d'un excès. On parle du même excès que celui qu'on désigne quand on s'en prend à la consommation de masse. On parle juste de ça. On ne dit pas que ne devrait être autorisé à Venise que les gens qui vont à la Biennale. Ça n'est pas du tout mon point. Et d'ailleurs, j'ai posé un personnage précisément dans Venisland pour montrer que ça n'était absolument pas le sujet. Voilà. Donc, tout ça est assez compliqué et j'ai voulu le restituer à travers différents personnages qui, chacun, en fait, comme je suis chroniqueuse judiciaire, j'ai l'habitude dans les prétoires d'entendre une thèse et la thèse opposée. L'expérience m'a appris qu'en général, c'était au milieu que se situait.
Il n'y a pas les bons et les méchants dans votre, dans votre roman.
Il n'y a pas de bons et de méchants. Il y a des êtres humains qui sont confrontés à des situations et qui essayent comme ils peuvent de les gérer. Certains un peu plus égoïstement et avec des idées un petit peu moins bonnes que les autres et un peu moins de générosité. Mais voilà un peu quels sont les enjeux. On ne peut pas arrêter le surtourisme d'un seul coup. On ne peut pas dire qu'il y a des gens qui auront le droit de voyager et d'autres qui n'auront pas le droit. Mais on peut peut-être commencer à se poser la question et commencer à se poser la question, comme je crois beaucoup en l'intelligence humaine, c'est se donner les moyens d'apporter
problème,
une réponse.
On trouvera, connaître le problème pour trouver la solution. Mais alors, ce qui est, votre livre est merveilleusement agréable à lire, parce que d'abord, Venise, c'est une scène de théâtre. Et vous avez vraiment imaginé une nouvelle stratégie culturelle, de combat culturel, qui est de faire des fausses catastrophes, si on peut dire, pour faire croire aux gens, pour mettre les gens devant le problème. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous... comment ça se passe? Quel est le problème qui amène la police devant...
Alors, le problème qui amène donc la police, c'est qu'on commence la première page, on trouve une tête coupée à côté de la basilique Saint-Marc, qui effraie les premiers touristes qui sont debout, jusqu'à ce qu'on découvre, je le dis parce que là, je ne spoile pas le livre, on le découvre à la page suivante, que c'est en fait une fausse tête, fort heureusement, très bien imitée. Bon, une de mes passions, c'est les fabricants de masques à Venise, pour ceux qui restent encore les vrais, donc j'ai voulu jouer avec ça. Et j'ai voulu jouer avec les illusions, et avec aussi les illusions médiatiques, parce qu'en tant que journaliste, je les connais bien. Donc, c'est une intrigue policière où on ne sait pas tout à fait ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, parce que quelqu'un, et là par contre je ne le dirai pas, joue à faire des mises en scène, en réalité pour effrayer les touristes, et en même temps, comme vous le dites, faire prendre conscience des difficultés. Voilà, après je ne peux pas dire, parce que sinon c'est pas la peine de créer une intrigue policière si c'est pour donner les clés de lecture avant éventuellement les auditeurs le lisent. Mais
bon, à chaque fois, il y a une catastrophe, il y a du sang, il y a des morts, il y a des disparus, et puis ça monte, et puis ça monte, et puis tout d'un coup, on craint la peste, enfin... Et c'est là où on arrive au summum. Et au milieu de tout ça, on découvre tous ces personnages, leurs réactions. Et aussi leur quotidien. Ce qui est très, très agréable quand on connaît un peu Venise, c'est qu'on se promène dans Venise avec vous. Et que c'est le quotidien de Venise qui est vécu par le policier qui, le soir, n'en peut plus, rentre. Il fait... Alors oui, c'est dans un climat de chaleur.
Il y a une canicule en plus.
De canicule colossale. Donc tout le monde est écrasé de chaleur et qui rentre et qui va déboucher sa bouteille d'un bon vin du coin avec le bon fromage et le bon jambon partagé avec un ami, tout ça décrit avec une telle sensibilité et vérité qu'on se voit en train de boire avec eux et prendre...
Figurez-vous, d'abord, j'ai mis 6 ans à écrire ce livre, notamment parce que le confinement m'est tombé dessus, et dénoncer le tourisme de masse, je venais de le finir, et dénoncer le tourisme de masse au moment où on voyait des signes sur les canaux et on apercevait dans les eaux devenues cristallines, évidemment, puisqu'il n'y avait plus de mouvement de bateau, donc les eaux étaient transparentes, des poissons, c'était très ennuyeux. Donc j'ai dû reprendre le roman pour un tout petit peu l'adapter, et je l'ai porté si longtemps que lorsque je l'ai eu terminé et que je me suis rendue à Venise, juste après le confinement, cette fameuse fois, à un moment donné, j'ai croisé un de mes personnages dans une rue. Et je n'arrivais plus à distinguer, je rassure les auditeurs, je crois être relativement équilibrée psychologiquement, mais il y a un moment donné où vous les voyez vivre, les personnages, à force de vivre avec eux. Et j'ai voulu qu'ils soient comme ça dans le roman. J'ai voulu rester avec eux. J'ai pas voulu qu'ils soient des prétextes à tenir un discours.
Voilà, c'est ça. Ah oui, parce que c'est insupportable, ça. Insupportable.
J'ai voulu les installer parce que, en même temps, encore une fois, j'ai une telle passion de Venise que, malheureusement, je n'y vis pas ou pas encore. Ça reste quand même un projet qui m'écheville au corps. Et donc, écrire ce livre, c'était pour moi m'installer à Venise par l'imagination et emmener le lecteur. Parce que Venise reste l'héroïne, en fait, du roman. Et j'espère qu'on y trouvera le plaisir de lire, que j'ai pris comme plaisir à écrire, justement, de m'y installer, d'aller faire mes courses à l'épicerie, de déboucher une bouteille de vin, et de, à chaque fois qu'on marche dans une rue, se rendre compte...
Vous attristez de la disparition de la librairie française. Ces petites choses qui sont l'actualité de Venise.
Donc j'ai voulu vraiment, et encore une fois, tout est vrai. J'ai même découvert qu'une des choses que j'avais inventées existait déjà. Il y a une société qui protège Venise, c'est un des protagonistes mystérieux du roman. Et j'ai découvert en lisant la Gazette de l'Hôtel de Rouille il y a 3 semaines qu'il y a en effet une société, alors chez moi elle est un peu occulte, dans la réalité elle ne l'est pas, mais il existe une société basée à Venise et à New York, dont l'objectif est de protéger, de défendre Venise, de réhabiliter, de restaurer certaines œuvres d'art, etc. Voilà, donc...
En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque personnage vit cette actualité avec tous ses désirs, mais aussi ses doutes. Les personnages sont des... la question se pose... Comment défendre Venise ?
Oui.
Jusqu'où on doit réguler ce surtourisme. Enfin, les solutions sont pas. Les écolos sont plus radicaux, mais même, je dirais, pas si radicaux que ça. Et c'est ce personnage invisible, il va les mettre dans le jeu, mais c'est pas eux qui imaginent la stratégie. Eux, ils font des manifs. Et ça, quand on va à Venise, on croise les manifs très souvent. Enfin, moi, j'en ai vu, en tout cas. Ils se baladent dans Venise avec des pancartes pour dire « c'est insupportable, regardez ce bateau ».
Voilà.
Voilà. Et ça dure depuis bien avant le Covid, puisque j'y suis allée bien avant le Covid.
Bah oui, mais parce qu'on est fragile face à ces difficultés, on est un petit peu démunis. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. C'était d'une tristesse après le Covid. Rien qu'à l'embarcadère, pour sortir de l'aéroport, il n'y avait personne. Alors, quand il y a des foules immenses, Riva degli Schiavoni, que vous voyez, cette espèce de, que je compare à une marée noire, parce que vraiment, c'est terrifiant, quoi, à ce niveau-là de monde, c'est terrifiant. Mais s'il y a personne, c'est ennuyeux aussi.
Oui, non, puis c'est la mort.
Voilà.
Parce qu'il faut de l'argent pour restaurer tout. Enfin,
voilà.
Chaque maison demande une restauration permanente.
Parce que ce sont des bâtiments infiniment fragiles. Alors, non seulement on sait que Venise s'enfonce sous les eaux, elle, naturellement, mais on sait en plus que le niveau des eaux remonte. Or, le génie des Vénitiens, ça a été de construire sur du bois, nous le savons tous, des milliers et des milliers de troncs d'arbres, de faire des fondations en pierre d'Istrie parce qu'elles résistent à l'eau, mais pour ne pas peser excessivement sur le sol, ensuite d'élever les murs en briques. Sauf que, à partir du moment où la ville s'enfonce sous l'eau, l'eau vient lécher la brique. Évidemment, la brique, elle est friable, et en plus, comme c'est de l'eau salée, lorsque l'eau sèche, le sel fait éclater la brique. Donc, ils ont beau être géniaux, il y a un moment donné où ils sont rattrapés par la nature. Alors, il y a eu le grand projet Moïse qui enfin fonctionne, qui semble-t-il empêche les aqualta, c'est déjà ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu poser cette question d'écologie à Venise, parce que je pense que c'est le lieu le mieux choisi. Parce que Venise, c'est déjà un triomphe de l'homme sur la nature. Construire une ville bateau, enfin, c'est magique. Ils ont eu un ministère de l'eau dès le XVIe siècle. Ils ont été habitués à vivre avec la nature dans son infinie complexité. Et je pense que, d'ailleurs, une partie des solutions viendront sans doute de Venise pour tout ce qui est, en tout cas, rapport à l'eau et à la manière de gérer la montée des eaux. Voilà. Mais encore une fois, c'est un vrai travail. Et moi, j'ai voulu poser la question. Juste poser la question. Parce que si on commence à se poser la question et à réfléchir, on va s'en sortir.
Alors, donc, la première partie... on voit cette catastrophe vue par tous les personnages différents, différents points de vue, etc. Aussi cette peine et cet amour que les gens ont de leur ville. Il y a un attachement, enfin, vous le rendez très palpable.
Et il reste un peuple, ça m'a beaucoup surpris. Ils arrivent à continuer à maintenir leur tradition. Et je ne crois pas que ce soit une sorte de faux semblant pour amuser le tourisme.
C'est de l'amour.
Voilà. Ils y arrivent à 49 000, pas contre, parce qu'ils ne sont pas contre les touristes. Ils n'ont rien contre
les... Ils vivent de ça.
Voilà, ils en vivent. Donc, ils sont même d'une très grande patience. Ils ont beaucoup d'humour. On est toujours très, très bien reçus à Venise. Ils parlent toutes les langues. Moi, ça m'amuse parce que j'essaye d'apprendre l'italien. J'ai vraiment le projet un jour d'y aller. Et donc, avec mes pauvres moyens, je n'ai jamais été très douée en langue. J'arrive, je dis bonjour. Journaux, etc. Je suis très fière de moi. Immédiatement, on me répond en français. Et quand j'ai demandé à l'hôtel où je suis descendue il y a 3 semaines à la femme qui me recevait combien elle parlait de langue, elle me dit 5 ou 6. Voilà, donc il parle très facilement après tout, anglais, espagnol, italien, voilà.
Au centre de la Méditerranée, donc.
Donc il parle toutes les langues. Et ils ont vraiment un attachement fou pour leur ville, on les comprend en même temps, tellement c'est... Et là j'étais heureuse parce que j'étais descendue dans le quartier de l'Arsenal, et un soir je rentre de mes différentes visites et balades, et je suis un homme avec un petit chien et avec un enfant, et c'était un grand-père qui était allé chercher son enfant à la sortie de l'école, et je suis arrivée sur le campo, je me suis assise sur un banc, et voilà, j'ai vu les enfants jouer en sortant de l'école. Et c'est des moments magiques parce qu'on se dit...
Elle est vivante.
Et quand on sort du trajet San Marco-Rialto,
on est tranquille.
On arrive dans le Dorso d'Uro, dans le quartier de l'Arsenal. Voilà, on arrive à voir des vrais Vénitiens et à se conforter dans l'idée que... Voilà, ils ont traversé tellement de choses que de toute façon...
Mais moi, il y a une question qui m'amuse. Alors là, on revient au littéraire. C'est que tout est très noir au début. Il y a un désespoir qui prend tout le monde. À la fois celui qui défend, pour des raisons financières ou autres, ou de gains ou d'intérêts, ce surtourisme. Et en tout cas, on pourrait se dire que ça va mal finir. Hein. Vous savez, on est pessimiste, tout va très mal finir, de toute façon, on ne peut rien faire. Et vous retournez la situation à la fin, et c'est un peu comme si il y avait eu un combat entre tout le côté matériel de l'argent et du profit, et que on ne peut pas détruire... On ne peut pas détruire l'âme. L'âme, elle est beaucoup plus forte. Et c'est un peu quand les retournements de la fin, ce sont des conversions dans un sens. La conversion du bonhomme qui organise tout par derrière et qui a mis de l'argent pour créer tout ce scénario catastrophe. Qui devient meilleur et qui est le frère d'un autre homme qui agit et qui est monsieur le curé. Et vous voyez des personnages, alors d'autres qui font carrière grâce à ça, mais il y a un retournement qui est positif, et je dirais qu'en fait, ça ne peut pas ne pas finir comme ça. Quand on ferme le livre, on se dit, oui, il faut penser que... Il y a un moment donné où l'argent, la consommation et tout ça, ça ne fonctionnera plus. Et que ce désir de la beauté, de l'harmonie, etc., de l'amour, en fait, de l'identité d'un lieu, va gagner.
Je le crois profondément. Je suis quelqu'un d'extrêmement pessimiste, d'abord parce que je suis d'une grande famille d'angoissés et voire de grands dépressifs.
Ça n'a pas l'air.
c'est le sourire du désespéré. Donc je suis à la fois extrêmement pessimiste, peut-être un peu trop. Alors se dire lucide, c'est toujours quelque chose qui a l'air d'être très prétentieux. Disons que j'ai aiguisé mon regard au fil des ans sur ce qu'une situation pouvait contenir de potentialité. Et comme je suis pessimiste, ça donne un résultat qui n'est pas toujours facile à vivre. Donc, il y a une grande... En fait, c'est parce qu'il y a une grande inquiétude à l'origine de ce livre. Mais en même temps, je crois beaucoup en l'homme. Je crois beaucoup dans sa capacité, dans son intelligence... Je crois beaucoup que dans un combat entre le bien et le mal, le bien triomphe. Et j'en ai eu la confirmation dans l'exercice de mon métier, il y a maintenant 2 ou 3 ans. Je suis chroniqueuse judiciaire et j'ai notamment chroniqué les grands procès terroristes, dont V13, les procès donc des attentats du 13 novembre 2015, qui a duré presque un an, qui est un des... le procès le plus long de l'histoire après Nuremberg. Et il faut se figurer ce que ça a été, c'était plus de 500 victimes les familles de victimes qui sont venues déposer au pied de la cour d'assises leur tragédie. C'est inouï, je crois pas qu'il y ait à part Nuremberg, je vois, voilà, c'était absolument terrible. Et c'était déjà quelque chose de très lourd. Et il y avait aussi une autre chose très lourde, c'était le résultat du travail des enquêteurs, et notamment ces vidéos épouvantables des terroristes qu'il se passe pour se galvaniser de décapitation. Et c'était des choses assez terrifiantes. Et le sujet a été terrifiant. Et à la fin de ce procès, je le dis parce que je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Sinon, je me permettrais peut-être pas. Il apparaissait à l'évidence que le bien avait triomphé. C'est-à-dire la résilience des victimes. Et surtout, moi, ce qui m'a frappée, c'était à 90%, elles opposaient le bien au mal. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas dans la haine. Je ne critique pas les gens, je ne sais pas comment je réagirais. Donc il ne s'agit pas de distribuer des bons ou des mauvais points, mais de parler de choses que j'ai vues. La plupart, alors il y en a qui créent des associations, des fondations pour aider ceci, pour aider cela, pour réparer une famille merveilleuse qui a dit, puisque t'es un jeune avocat qui était mort au Bataclan, on ne peut pas le réparer, alors on va réparer les autres. Et 90% des réactions étaient celles-là. Et donc, ça veut dire que les gens, instinctivement, ontologiquement, opposent le bien au mal. Dans une perspective chrétienne, ce que je suis, ça ne surprend pas. C'est le message christique. Mais je peux entendre que pour quelqu'un d'athée, ça n'est pas ce sens-là. Mais toujours est-il que c'est une réalité qui existe.
C'est ça, c'est une réalité objective.
Et donc, j'en ai déduit un peu cette maxime sur laquelle j'essaye d'écrire, mais c'est très compliqué d'écrire sans être niais ou sans être... face à un mal immense, l'homme est capable d'un bien encore plus immense.
Voilà. Voilà. Ah, c'est merveilleux ce que vous nous dites, ça nous console de tout. Et voilà. Surtout, lisez ce livre. Vous partirez à Venise sans avoir besoin de prendre le train. Et vous serez émerveillé par les personnages, par les rues, par les promenades et par ce qu'on y mange, parce que vous racontez ce qu'il y a dans les assiettes. Et on se dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne mangerai pas des pâtes aujourd'hui en allant dans la cuisine préparer le déjeuner. Tellement vous... Tout ça est savoureux. Olivia Dufour, merci, merci beaucoup pour ce récit. Et alors, je vous dis tout de suite qu'il y a déjà un de nos éditeurs qui nous écrit « Bonjour, à quand le tome 2 Parisiland ?» Il espère. Mais je ne sais pas quel sera votre tome 2, mais je crois que vous êtes en train de l'écrire. Mais on vous attend ici aussi pour le tome 2.
Je viens de finir un deuxième roman que j'appelle mon 2 bis parce que il s'est intercalé, qui se passe à Paris, qui se passe à La Défense et qui est effectivement pas sur un thème qui n'est pas tout à fait éloigné, mais qui est plutôt sur la solitude de l'homme moderne face à la froideur de la technologie et du monde qui nous entoure. Voilà, donc c'est pas tout à fait Parisland. On n'y est pas encore, mais dans certains quartiers...
Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous promener et de raconter et de mettre vos personnages dans un lieu.
Disons que je reste journaliste, donc j'ai envie de raconter le monde. Mais la fiction offre plus de possibilités de le raconter.
Avec et surtout, plus de liberté pour vous, journaliste.
Plus de liberté et d'en dénoncer les travers, ou en tout cas les travers du regard qu'on pose sur les choses. Voilà, moi ça reste ma passion. Donc il y a plein de formes de littérature. Mon travail, parce que j'en ai 3 ou 4 autres dans la tête, c'est vraiment d'analyser les travers de notre société, de les mettre en scène et d'en faire des sujets de réflexion. Voilà, c'est cette littérature-là qui m'intéresse et donc c'est pour ça que c'est cette littérature-là que j'essaye de pratiquer.
Merci, merci Olivia Dufour. Nous allons passer le...
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, vous disiez qu'il y a toutes sortes de formes de littérature Et là, nous allons en aborder une très, très particulière, et qui est de raconter une histoire vraie. Hein, évidemment, la fiction donne une liberté, mais là, c'était impossible. Il fallait raconter une histoire vraie en se disant que c'est vous qui l'avez vécu. Voilà, non. Vous êtes Héloïse Cluzel et vous abordez le sujet de Babylone vu par quelqu'un qui vit à Babylone, à Paris en l'occurrence. Donc, ce n'est pas tout à fait le tome 2 que réclame notre auditeur qui nous écoute, mais pourquoi pas. Vous apportez une note à la musique. C'est les récits de votre vie qui est une vie très tragique dans sa première partie qui dure très longtemps, mais quand même jusqu'à plus de 4 décennies, et qui commence par une enfance troublée, si on peut dire. Et la première partie du livre, comme je disais tout à l'heure, c'est une descente aux enfers, un peu comme la première partie du livre d'Olivia Dufour. Et ça décrit quelque chose que de plus en plus de gens vivent, mais qu'un journaliste ne peut pas raconter en 2 pages. Il faut un livre pour raconter ça. C'est-à-dire que vous avez des êtres qui sont touchés par le mal dès l'enfance, et qui après ne sont plus libres d'une certaine façon parce qu'ils ont tellement souffert que cette souffrance les empêche d'aimer, cette souffrance les empêche de vivre, cette souffrance leur donne même des envies de mort. Donc là, nous avons un récit réel, de faits réels, tout est réel, cette nouvelle forme de, comment dire, de mal qui sévit dans notre société actuelle. Héloïse Cluzel, racontez-nous.
Merci Aude, merci beaucoup pour cette invitation. Et merci Olivia pour votre témoignage.
Et alors je dis aussi que le livre est très facile à lire. On le lit, voilà. Donc parce que quand c'est mal écrit, c'est très pénible de lire quoi. Le vrai ou le faux, on s'en fout, mais que ce soit bien écrit, c'est formidable.
Merci. Alors en fait, j'ai Victoire à Babylone. Je l'ai écrit un petit peu comme un roman. C'est une forme très originale. Ce n'est pas chronologique, parce qu'en fait, j'aime énormément écrire. J'en ai fait mon métier pendant 30 ans et là, je n'étais plus au service de mes clients. Je vous raconterai tout à l'heure quel type de client. Et donc, cette forme originale, il faut bien avoir en tête que même si ça a l'air d'un roman, ce n'est pas un roman. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, à l'instant. Donc, c'est l'histoire d'une chute, pas celle de Camus, hein, mais une chute vertigineuse qui a commencé dans ma plus tendre enfance, hein, quand j'avais 2 ans. Je commençais à sentir un mal-être profond sans le comprendre, bien sûr. Et ma famille, mon contexte familial, évidemment, était à l'origine de ce mal-être profond. D'une part, donc ma famille est une famille bourgeoise, parisienne, catholique, pratiquante, non-croyante. Là, il y a un paradoxe déjà qui dérange, qui pique un peu. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'une fratrie de 3 enfants et nous étions obligés d'aller à la messe le dimanche, mais nos parents n'ont jamais cru en Dieu. Donc il y avait une forme là très bourgeoise de très très oui classique, hein, mais on l'a pas su tout de suite en fait. Mais moi, j'ai pas été catéchisée, j'ai été baptisée, j'avais 10 jours, mais ma mère un jour nous a dit à table que le Christ ne pouvait pas être ressuscité puisque ce n'était pas rationnel. Et mon père a renchéri le dimanche suivant en nous disant qu'il en avait assez de faire semblant, ce sont les mots de mes parents, hein. Il en avait assez de faire semblant qu'il n'irait plus à la messe le dimanche pour faire plaisir à notre mère. Donc le ton était donné, on n'a jamais prié, on n'a jamais cru en Dieu. Ce qui en fait m'a, non seulement ne m'a pas aidée, mais m'a déstructurée un petit peu déjà. Ensuite, j'ai vécu des choses assez difficiles avec ma mère qui n'arrivait pas à m'aimer pour une raison que j'ignore. Parce que les secrets de famille qui ont entouré cette famille n'ont pas été révélés En fait, dans mes recherches, au fil des années, j'ai réussi à trouver une partie de ces secrets, mais pas la totalité. Et ma mère m'a maltraitée, en fait, sur le plan verbal, affectif, psychologique, jamais physique, mais j'ai beaucoup, beaucoup souffert d'un désamour de sa part. Et une béance d'amour maternel s'est creusée lentement en moi jusqu'à, évidemment, continuer à me plonger dans un mal-être abyssal. Ensuite, à l'âge de 13 ans, j'ai vécu un inceste avec mon grand-oncle, qui était donc de la génération de mon grand-père maternel, qui était le mari de la sœur de ma grand-mère maternelle. Donc, ma mère a cautionné ce drame, ce crime. Et le fossé entre elle et moi s'est creusé davantage, parce que je lui en ai voulu, j'ai pas compris, et surtout, j'ai vraiment chuté dans une espèce de désir de suicide, lui aussi abyssal, qui était une obsession. Je voulais absolument, mon projet de vie, c'était de me suicider, d'arrêter de souffrir. En fait, à ma première tentative de suicide, j'avais 14 ans, donc un an après le drame. Et pour vous situer un peu le contexte de cette relation maternelle, mes parents étaient à un dîner avec des amis, et chez des amis, et mon frère a vu que j'avais à peu près avalé toute la pharmacie médicamenteuse de mes parents, et il les a appelés au secours, et quand ils sont arrivés, ma mère a vu que j'étais vivante dans ma chambre, sur mon lit, et elle m'a dit « Tu es contente, tu as réussi à nous gâcher notre dîner. » Ça donne le ton. J'ai énormément souffert de cette femme, mais c'est vraiment la plus grosse croix. Alors évidemment, l'inceste, voilà, mais c'est bien que vous en riez, parce que finalement, c'est tellement énorme qu'on peut en rire. Mais, voilà, et en fait...
L'inceste que vous n'avez pas trahi, enfin, vous n'en avez pas parlé, personne ne savait.
Bah, ma mère le savait, puisqu'elle était là, elle a vu le drame arriver, mais qu'elle a fermé les yeux.
C'est ça, ouais.
Mais évidemment, comme d'autres secrets de famille très lourds, mon inceste a été caché sous un tapis familial. Et la famille a été préservée, ma famille bourgeoise a été préservée, parce que ce grand-oncle était pédophile, et pas seulement avec moi. Je l'ai compris plus tard. Bien sûr, un pédophile ne se contente jamais d'une seule proie. Un enfant en appelle un autre, il en appelle un autre. C'est assez abominable, surtout que ce monsieur était un grand monsieur, je ne citerai pas son nom, mais voilà, qui faisait de la politique, qui était sorti de l'école polytechnique très 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 bien placé, numéro 2, enfin bref, donc je vais pas faire son portrait, il est mort. Donc moi j'ai fait une amnésie traumatique pendant 27 ans. Donc pendant 27 ans, j'étais extrêmement mal et je ne savais pas pourquoi. Je crois qu'il n'y a pas pire que de ne pas savoir pourquoi on est mal.
Mais il faut dire peut-être, vous avez oublié... Le fait pendant...
Amnésie traumatique, 27 ans.
27 ans, amnésie traumatique.
C'est-à-dire que mon cerveau, enfin on connaît bien ce phénomène maintenant,
oui,
on en a pas mal parlé, mon cerveau n'a pas pu accepter ce crime, l'horreur de ce que j'ai vécu. J'étais vierge quand même à 13 ans, donc... Et donc j'ai vécu dans le noir comme ça de ce drame, soi-disant pour me préserver, mais en fait, on est très très mal quand on ne sait pas ce qui est arrivé. Donc voilà. Et donc, l'envie de suicide a grandi, crescendo, crescendo. Et j'ai vu des psychanalystes, hein, je me suis soignée, j'essayais de ne pas mourir, en fait. Mais je n'étais pas du tout aidée par ma famille qui me culpabilisait d'être mal, qui me mettait la tête sous l'eau, en particulier mon frère, mais aussi ma mère, en me disant « Mais écoute, tu nous embêtes avec ton mal-être. » Enfin voilà, c'était horrible. Je peux vous dire que c'était une descente aux enfers. Je pensais que d'ailleurs, j'allais jamais m'en sortir. Et j'avais pas d'aide, en fait. Mes amis ne pouvaient pas m'aider. Voilà. Et en fait, il s'est passé ensuite un drame nouveau, encore un, familial. Donc, entre-temps, je suis rentrée dans la publicité.
Ben, d'abord, vous avez fait... des beaux-arts.
Oui,
vous
n'avez j'ai fait pas... des études d'artistique
on
pour...
On vous a accepté aux beaux-arts, ce qui n'est pas toujours facile d'être...
Moi, j'ai réussi le concours. Oui.
Réussir le concours, et d'y passer un an, de ne pas y être bien.
Non.
Et vous avez été beaucoup mieux, évidemment, dans une école qui enseignait quelque chose, qui était quelque chose...
Les arts décoratifs, privés.
Voilà. Et après ça, vous avez envie d'être artiste, mais votre père vous dit, non, hors de question, tu vas... rentrer dans la publicité, c'est là où on gagne de l'argent.
Alors, oui, mon père, en fait, était obsédé par l'argent, parce qu'il avait souffert pendant la guerre d'avoir eu faim. Il était d'une condition comment dirais-je, sociale non bourgeoise, il avait épousé une bourgeoise. Donc il avait un petit complexe, il avait un problème avec l'argent. Donc il nous avait tous dit, nous trois, pour être heureux, il faut être riche, et pour être très heureux, il faut être très riche. Donc cette ces phrases sont rentrées dans nos cerveaux, c'est-à-dire qu'on a cru notre papa. Et moi, j'en ai fait un objectif de vie. L'argent est devenu mon dieu, est devenu mon idole. De fait, j'en ai beaucoup gagné. Ben, quand on met ça en numéro un, on peut y arriver aussi. Mais donc, je suis rentrée. Mon père m'a mis d'office dans une agence de publicité assez connue, où j'ai beaucoup travaillé, mais où j'ai découvert avant l'heure, enfin avant qu'on en parle, le harcèlement sexuel. Alors ça a été un cauchemar, mais un cauchemar de tous les jours. Et pour toutes les femmes, hein, toutes les jeunes femmes qui rentraient dans les agences étaient déjà recrutées d'abord sur leur physique et ensuite sur un talent éventuel qu'elles pouvaient avoir. Et on était en compétition les unes avec les autres. C'était un pur cauchemar. Donc ça, c'est encore... Mais ça achevait de me rendre encore plus mal. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à me sortir de cette vie parce que tout était... j'étais cernée par des choses négatives qui ne me correspondaient pas. Et même l'art que j'ai essayé d'approcher, puisqu'en faisant des études artistiques pendant 7 ans, j'espérais m'en sortir comme ça. Mon père m'a dit un jour, donc avant de me forcer, à les forcer gentiment, hein, mais de me trouver une place dans une agence de communication, il m'a dit, mais tu les feras où tes peintures? Sur le trottoir. Et ça, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, je vais être pauvre. Et je ne veux pas être pauvre parce que je veux être heureuse, je veux être riche. Donc la spirale était enclenchée, la spirale négative, mais j'en avais pas d'autre. Hein. Et puis un jour, il y a eu donc ce drame de trop, c'est ce que j'appelle l'épreuve de trop. C'est que le fils aîné de mon frère a 3 ans de plus que moi, et 3 enfants, que j'aimais beaucoup, je l'aimais comme un fils adoptif en fait, s'est tué dans un accident de voiture. Il était très mal dans sa peau, comme moi. En fait, on était les deux vilains petits canards, c'est pour ça qu'on s'entendait bien. Deux petits boucs émissaires quand même, hein, parce que lui aussi, il a pas mal souffert. Et il s'est tué dans un accident de voiture avec son meilleur ami à côté de lui. Ils avaient tous les deux 20 ans. En pleine nuit, ils avaient beaucoup bu et beaucoup fumé de bedos. Donc du hashish, et ils se sont emplafonnés dans un poteau électrique EDF qui a été déraciné par la puissance du choc, et le poteau s'est abattu sur la voiture et les deux enfants ont été écrasés, et on n'a même pas pu voir les corps, c'était de la bouillie. Donc ça, ma famille s'est retrouvée en miettes, tout le monde évidemment, ça irradie hein, ce type de drame atroce. Et ma mère m'a dit, Héloïse, c'est pas la peine que tu nous téléphones, ton père et moi, on est anéantis. Appelle tes amis, mais nous, on répond plus au téléphone. Ouh. Donc, la porte la porte du cœur de ma mère, une fois de plus, s'est fermée. C'est comme si elle me disait, débrouille-toi, sachant que j'étais seule, sans mari, sans enfant quand même, et au chômage, en plus. Donc là, j'ai coulé. Là, j'ai coulé à pic, mais j'avais déjà bien coulé avant. Mais je ne savais pas s'il y avait un fond à cet abîme. En fait, il y en avait un. Mais je ne le savais pas.
Il y a une limite au mal.
Il y a un fond, oui. Il y a un fond dans l'horreur. Il y a un fond qu'on peut toucher ou pas. Mais là je l'ai touché. Et je me suis tournée vers le ciel, n'étant pas... J'étais baptisée, mais non-croyante. Et je me suis adressée au ciel. Je me suis adressée à Dieu en lui disant, si tu existes. Mais je l'ai insultée. C'est-à-dire que j'ai déversé un flot de colère, qui était une détresse profonde, évidemment, inimaginable. J'avais jamais parlé ni à qui que ce soit de cette façon-là, mais là, Dieu, je me suis lâchée, si on peut dire. Et en fait, parce que j'avais le projet de me suicider le lendemain matin de cette nuit noire, qui était la dernière de ma vie dans mon esprit. Là, cette fois-ci, le projet était concret. C'était la rame de métro, du premier métro
vous avez pris aujourd'hui,
que j'ai pris aujourd'hui
pour venir
de la ligne 9 près de chez moi, et pour que tout s'arrête, quoi. Et c'est surtout que, en fait, j'avais assez peur de me suicider. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de super facile, même quand on est très mal. Mais là, je l'avais programmé, il fallait que ça s'arrête. Mais juste avant, j'ai poussé ce cri, sans savoir que d'autres avant moi l'avaient fait, évidemment, d'autres personnes, peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Et j'ai dit à Dieu, si tu n'existes pas, ton silence sera la preuve de ta non-existence. Donc ça m'arrangerait que tu n'existes pas. Parce que moi, j'en peux plus. Mais si tu existes, t'as intérêt à te manifester. Et après, j'ai su que c'était pas quelque chose de méchant d'engueuler Dieu. C'était juste une prière musclée. C'est ce que m'a dit un prêtre. Et là, je me suis à moitié rendormie parce que, comme c'était ma dernière nuit, j'avais pas sommeil. Mais je me suis assoupie et 2 heures après, je me suis réveillée. Et là, la réponse de Dieu est arrivée. Je n'y croyais plus, je pensais même plus à ma prière. J'étais obsédée par ma rame de métro.
Et comment vous allez vous y prendre?
Et comment j'allais faire, à quel endroit du quai, etc. Tous les détails étaient dans ma tête. Et en fait, et là, Dieu m'a répondu, mais évidemment, d'une manière, comme d'habitude, inattendue, surnaturelle, inouïe. Enfin, les mots sont tous trop faibles. Donc, je me suis levée, si vous voulez que je vous raconte cet épisode. Mais on peut ne pas le raconter, ça peut rester un mystère.
Non, absolument, parce qu'il y a une belle image. Et les images, comme je vous disais tout à l'heure, un visage dit donc, beaucoup sur les mots.
Alors en fait, je me suis rendue dans ma salle de bain, je me suis assise, et là j'ai pris ma tête entre mes mains. Tout était noir, hein. Mon désespoir, la nuit, ma tête entre les mains, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire plus noir. Je n'ai pas allumé la lumière, on ne pouvait pas faire plus noir. Et là, j'ai vu apparaître un médaillon noir, lui aussi,
entre vos mains,
dans mes mains, dans le creux de mes mains, dans le petit cachot de mes mains.
Qui était devant vos yeux.
Oui, qui était devant mes yeux, mais je pleurais beaucoup. Hein, donc, et à ce moment-là, j'ai vu apparaître ce médaillon improbable. Et au milieu, au creux de ce médaillon, une lumière jamais vue, une lumière qui avait en fait la forme d'un visage de lumière, un visage d'amour, un visage de femme, un visage irradiant qui m'a inondé d'un torrent d'amour comme je n'avais jamais reçu ni vu jamais sur aucun visage humain. Donc c'était un visage qui avait l'air d'être humain, mais qui n'était pas humain, qui était ensuite, a posteriori, divin. C'est-à-dire que moi, je n'avais aucune culture ni de Dieu, ni de la Vierge Marie. Donc j'ai cherché les traits de mon arrière-grand-mère qui s'était beaucoup occupée de moi de 0 à 6 ans. Il m'avait donné beaucoup d'amour, parce que c'était l'amour que je voyais, enfin. Et là, je n'ai pas reconnu mon arrière-grand-mère, donc je me suis dit, tant pis, c'est une inconnue, je prends. Mais je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas dit qui êtes-vous. J'étais tellement, tellement remplie de ce que je recevais. Et en plus, on était deux dans la pièce, c'est fini, je n'étais plus seule. J'avais cette présence inouïe, mais d'une force incroyable, surnaturelle. Et au bout de quelques minutes, cette image, en fait, cette femme, cette vision, je ne sais pas comment l'appeler, vivante, hein, qui me regardait, qui avait un sourire incroyable, elle s'est évanouie tout doucement. Mais elle s'est évanouie, je n'ai pas cherché à la rattraper, en fait, parce que déjà, elle a emporté avec elle ma colère. C'est-à-dire que cette colère a disparu. Ma tristesse était toujours là, mais ce bain d'amour irradiant était en moi, et cette femme ayant disparu, je sentais qu'elle était quand même en moi. Je sentais une présence qui continuait non seulement dans la pièce, mais dans mon cœur. Ça a été très fort. Ensuite, je suis allée me recoucher et j'ai oublié de me suicider. Parce que je continuais à boire ce que j'avais vu, et cette femme était... Et ensuite, il y a tout un parcours. Hein. Après, c'est toute une histoire.
C'est toute une histoire.
Très longue, hein. C'est très long, le relèvement.
Avec beaucoup de choses... je dirais surnaturel.
Ah oui, beaucoup. J'ai été très, très, très gâtée parce que j'avais cette béance d'amour en moi. Et je crois que le ciel, je pense que c'est aussi le chemin des convertis. C'est-à-dire que quand une convertie revient dans l'enclos, quand une brebis revient dans l'enclos, il y a une telle joie là-haut que la joie, on la reçoit en nous. Et que Dieu nous gâte et nous comble. Et c'est vrai que j'ai reçu de l'amour, mais à foison. Je me souviens avoir dit un jour... Oh bon Dieu, mais là tu me gâtes trop, va gâter ceux qui se plaignent de ne rien avoir. Parce que moi c'est trop, je pleurais de bonheur. Et j'ai vécu ça tous les jours pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je marchais sur les nuages, je n'étais absolument pas... Enfin, j'étais dans la réalité, mes pieds étaient sur terre, mais mon cœur était là-haut. Et j'ai écrit quelques fioretti que j'ai vécu, bien sûr, parce qu'il faut faire mémoire et remercier, rendre grâce quand on est gâté comme ça. Et ça m'a aidé à me relever tout doucement, parce que l'état de la brebis n'était pas terrible quand même. Hein. Elle n'était pas seulement égarée, elle était abîmée en fait. Elle était, on dirait aujourd'hui, destroyée, mais c'est ça, parce que j'avais trop accumulé d'épreuves, les unes sur les autres, sans savoir pendant ces épreuves qu'il y avait cette lumière, que j'ai fini par, en appelant le ciel, que j'ai fini par trouver. Mais en fait, c'est vraiment je pense à ça maintenant, c'est vraiment le prologue de Saint Jean 1,5, quand Saint Jean dit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée ». Moi, je ne savais pas qu'il y avait cette lumière, je l'ai rencontrée. Mais en fait, dans chaque ténèbre, il y a cette lumière. Personne n'arrêtera la lumière de Dieu, personne n'arrêtera la puissance d'amour de Dieu, même la pire des épreuves. C'est très important de savoir ça, parce que ça change tout. Moi, ne sachant pas qu'il y avait cette lumière, je continuais à couler, à tomber. Mais maintenant que je sais ça, parce que des épreuves, il y en aura toujours.
Et puis, vous en avez eu beaucoup après.
Oui, j'en ai eu beaucoup. Alors là, j'ai été très surprise parce que je pensais que j'allais être indemne d'épreuves. Je pensais que j'avais fait ma part, que j'avais eu ma dose, si je puis dire, mais pas du tout. Les épreuves ont continué, mais comme un cancer quand même, c'est pas rien. Mais d'une façon, avec une force que je n'avais pas avant. Et on peut traverser les épreuves si on sait qu'on n'est pas seul, si on sait qu'on est aidé. Voilà.
Alors, il y a toute la partie ensuite qui est très passionnante, c'est les combats.
Ouais.
Parce que, en réalité, avant, il n'y avait pas une distinction claire du bien et du mal. Et parfois, on appelait bien ce qui était mal ou mal ce qui était bien. C'est-à-dire qu'il y a cette confusion cognitive très profonde qui faisait aussi que vous étiez devenu addict, si on peut dire, de l'argent, vous ne vous droguiez pas, mais vous fumiez. Il y a l'alcool, il y a plein de choses comme ça, et les écrans, plein de choses comme ça qui sont des obstacles. Et comme on est addict, c'est difficile. Enfin, quand on connaît le problème d'un alcoolique et la difficulté tellement grande de se débarrasser de ses habitudes. Et alors donc les addictions étaient là, il fallait les combattre les unes après les autres.
En fait, j'avais tissé des liens mauvais à mon insu, avec dans des chemins de fausses consolations en fait, de faux bonheur. En essayant d'échapper à mes malheurs, je...
Oui, parce que vous, par ailleurs, vous viviez dans l'abondance.
J'avais énormément d'argent, j'en ai gagné beaucoup. J'ai beaucoup voyagé,
Vous avez connu le luxe le plus grand qu'on puisse connaître.
Grand luxe, oui.
Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que dans cette phase noire, vous avez connu tout ça. Vous avez atteint le sommet dans ces domaines qui sont ni bien ni mal. Le luxe est une bonne chose. Mais... Comment dire, vous n'en éprouviez pas un bonheur ou une satisfaction. C'est-à-dire, immédiatement, c'était pas suffisant, si on peut dire. Ça aussi, c'est très intéressant à dire dans cette histoire.
C'est-à-dire que
c'est que tout ça ne vous satisfaisait pas.
Ça me satisfaisait momentanément, mais j'ai fait l'expérience du vide de sens, en fait.
Ouais.
J'ai fait l'expérience de ne jamais être comblée. Et contrairement à ce que mon père m'avait dit, j'ai été très déçue. Je n'ai pas été très heureuse avec beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Mais j'étais quand même prisonnière. Parce que plus on gagne d'argent, plus il faut encore en gagner. Les impôts augmentent, il faut en gagner davantage, etc. Ça, c'est sans fin l'argent. Et c'était devenu mon dieu. Et je me suis rendu compte, merci toutes ces épreuves m'ont fait prendre conscience très lentement de la mauvaise direction de vie que j'avais prise malgré moi. Et comme dirait un prêtre que j'aimais bien, je crois qu'il a repris ça de saint Augustin, il vaut mieux marcher lentement vers la bonne direction que de courir dans la mauvaise. Et moi, vers la mauvaise. Et moi, je courais vers la mauvaise, pensant que c'était ça ma vie, la vie. Donc c'est vrai que la consommation, la fête, parce qu'on faisait beaucoup la fête dans mon milieu professionnel...
Les joints,
les voyages, les joints qu'on appelle des bedeaux.
Les joints étaient importants parce que c'était ça qui donnait la créativité et un peu le coup de folie qu'il faut pour.
Oui, mais à l'image de Baudelaire, de Cocteau, nous on avait des références qui nous stimulaient et qui nous dédouanaient de fumer. Mais dans les agences, tout le monde fumait. Hein. Même nos directeurs de création fumaient, tout le monde fumait. Ça nous aidait vraiment à créer. Alors je pouvais créer sans. Mais on était plus sûr de nous au moment où on filmait pour trouver des campagnes de pub.
Il y avait la pression aussi.
Il y avait une grosse pression, voilà. Mais donc, en fait, c'est vrai que tous ces chemins, non seulement ne m'ont pas rendue heureuse, mais ont participé à cette chute. Et bizarrement, je pense qu'à un moment donné, je me suis mise en relation avec Dieu en lui demandant de l'aide. Mais Dieu, il attendait que ça, finalement, parce que... Si on ne lui demande pas au secours, il ne va pas nous sauver de force. Donc j'ai eu ce déclic, mais je pense que c'était aussi parce que j'ai été baptisée à l'âge de 10 jours. J'avais l'Esprit Saint en moi sans le savoir. Je pense que c'est aussi un réflexe, je ne sais pas, voilà, c'est spirituel tout ça. Mais j'ai dû ensuite, dans cette course vers la lumière, dans l'autre sens, j'ai dû faire des choix radicaux qui ont été très durs. que j'appelle des combats, hein, c'est beaucoup plus que des choix. Et là, j'ai demandé évidemment à Dieu de m'aider, parce que sinon je ne pouvais pas le suivre. Et notamment, j'étais avec un amant marié quand j'ai rencontré, quand j'ai commencé à comprendre que la foi existait, que c'était un chemin de vie et que c'était même le seul, etc. Et m'arracher à cet amant marié, ça a été mon pire combat. Parce que lui, évidemment, ne le souhaitait pas. Et moi, je pensais que j'avais de la place dans mon cœur pour les deux. Mon cœur était assez grand pour avoir le Christ d'un côté et mon amant marié de l'autre. Mais ce poison de cette relation adultère, je ne m'en étais même pas rendu compte. Je me mentais à moi-même. Je me disais, mais moi, je ne trompe personne. Je ne suis pas mariée. C'est son problème. On va très loin. Quand on fait une chose mauvaise, il y a des pensées mauvaises qui arrivent. J'en étais arrivée à souhaiter que sa femme meure d'un accident, d'une maladie, pour être débarrassée d'elle. Donc, du venin rentrait dans mon cœur. C'était terrifiant. Et j'étais pas bien. J'étais faussement bien au début et pas bien ensuite. Donc, j'ai réussi à le quitter parce que Dieu donne toujours les moyens de ce qu'il demande. Et par la prière, bien sûr, mais pas seulement la mienne, celle d'autres personnes, des prêtres. J'ai réussi à quitter cet homme, ça a été une douleur terrifiante. Mais un jour, je me suis réveillée au bout de plusieurs mois et la morsure du manque de cet homme avait disparu. Et c'était une victoire.
C'est un peu comme les addictions alcooliques. Tout d'un coup, vous n'avez plus besoin d'alcool. Mais
Alors l'alcool, j'ai pas connu ce problème d'addiction à l'alcool qui est particulièrement dur, paraît-il.
Ouais, très très dur.
Ça, c'est un des plus durs, je crois. Mais effectivement, à un moment donné, ça s'arrête. Mais ça peut être très long et très douloureux. C'est une drogue, hein, l'alcool. Donc là, je peux pas dire que cette relation avec cet homme était une drogue, mais peut-être parce que j'ai quand même eu du mal à le quitter. Et voilà. Et donc, tout doucement, au fil du temps, il a fallu quand même des années et des années. Dieu a respecté mon...
Le rythme.
Non, mais surtout ma fragilité, mon état, ma sensibilité, mes souffrances, que j'avais des grosses blessures, le pardon à ma mère que je n'avais pas encore donné, qui était très difficile. Et tout ça s'est fait dans le temps parce que Dieu était infiniment délicat. Et il ne m'a pas brusqué. Il m'aurait envoyé un seau d'eau froide d'amour sur la tête. Je sais pas si j'aurais supporté, C'était toujours par petites touches, par des rencontres, par des événements. Je le voyais me guider, en fait. Je le priais, je voulais le suivre. Ma volonté était là, parce que la foi, c'est un don, mais c'est aussi un choix. Heureusement, on est libre.
Mais la force n'y était pas, il fallait...
J'avais pas la force, J'avais pas la force, exactement ça.
Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que vous racontez tous ces petits événements, ces signes au jour le jour qui permettent de faire ce combat, et c'est un long combat d'ailleurs, et avec en plus des épreuves, c'est-à-dire vous avez eu le cancer vraiment au dernier stade, enfin plein de choses comme ça. Et donc ce livre raconte cette expérience, alors le côté fulgurant du début, mais après c'est pas fulgurant, c'est presque une relation amicale, amoureuse avec le Christ qui fait que vous comprenez les événements qui se passent autour de vous, vous voyez un signe là, un signe... Tout devient plein de sens, alors qu'il y avait si peu de sens avant. Donc ce livre est assez passionnant à lire, parce qu'on voit... Alors, toutes les conversions sont différentes, ça c'est une chose. L'être est unique, la création de cet être est unique, c'est ça l'humanité en fait. Et donc, c'est un livre qui est très passionnant pour voir qu'est-ce que c'est qu'une conversion. Mais beaucoup de gens entendent parler de conversion, mais ne savent pas ce que c'est. Lisez le livre d'Héloïse Cluzel. Et je pense que l'une et l'autre, vous nous préparez d'autres livres qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une chose qui termine votre livre et qui est étrange, parce que vous disiez, bon, je reçois toutes ces grâces, j'arrive à être heureuse même dans le malheur, enfin, toutes ces choses qui paraissent tellement étranges quand on ne les a pas vécues, parce que ce que vous racontez, ce n'est pas des théories, ni une idéologie religieuse, ni quoi que ce soit, c'est une expérience, on est là dans le concret d'une expérience. Et vous vous posiez la question, mais à quoi je sers? Et puis vous avez cette réponse, ben, il faut écrire. Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et ce livre, en fait, c'est une expérience que même celui qui ne croit pas devrait explorer, connaître. C'est quand même intéressant de savoir de quoi on parle quand on vous dit cette année, il y a eu je ne sais pas combien de baptisés en plus ou de convertis, c'est quand même un mystère. Voilà. Donc le mystère est éclairé grâce à vous, Héloïse Cluzel, et nous attendons la suite de vos aventures. Et maintenant, nous allons écouter Christine Surjas, est au bout du fil et qui va nous parler de sa chronique.
Alors avant de faire la petite chronique, là j'ai écouté vos conversations, et je voudrais revenir un tout petit peu, si vous me le permettez, sur une autre conversion, qui est la conversion à la beauté. Et justement, ça implique les rapports entre beauté et conversion religieuse, et ce sont des thèmes que j'aborde, dont le dernier livre qui est paru chez Bolène, qui s'appelle « Bienfait du beau », il y a toute une partie qui est consacrée à la spiritualité de la beauté. Parce qu'au fond, la beauté, que ce soit la beauté naturelle comme la beauté artistique, ça porte au questionnement métaphysique. Parce qu'on se dit, mais pourquoi c'est beau? Pourquoi est-ce que cette beauté me parle? D'où vient-elle? Etc. Et pour certains, la beauté peut être un tremplin vers une forme de conversion. Et c'est une notion qui est répandue dans la Bible, au livre de la Sagesse. On voit cette idée que la grandeur et la beauté du monde pointent vers le tout premier artiste, finalement, qui serait le divin. Dans l'islam, vous avez l'idée que la beauté est un des attributs d'Allah. Bon. Mais ça existe aussi chez les païens, chez Cicéron. Cicéron va dire qu'au fond, il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a qu'à examiner des yeux la beauté des choses, dit-il, dont nous rapportons l'établissement à une providence divine. Vous voyez, donc la beauté des choses implique une providence divine. Bon. Mais cette spiritualité du beau, elle peut aussi concerner les athées. Parce que pour un athée, il est possible de trouver un bienfait dans la beauté. Alors, pas forcément, dans ce cas-là, une preuve de l'existence de Dieu, mais au moins une consolation. La consolation qu'un monde livré au hasard peut être merveilleux, du moins par moment. Donc dans ce cas, la gloire du beau artistique reviendrait à l'humain, et si le beau est naturel, comme il serait sans auteur dans cette conception athée, eh bien la beauté serait en quelque sorte un miracle laïque. Bon. Donc dans les deux hypothèses, qu'on soit croyant ou pas, il y a une bonification par la beauté. La beauté nous fait du bien. Alors on peut se demander comment. On peut revenir à la définition du beau qu'avait donné Schiller, qui disait « la beauté est un rayonnement de l'infini dans le fini, de l'absolu dans le relatif ». Donc dans tous les cas, cela suppose d'admettre la présence d'un infini, d'un l'absolu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors évidemment ça peut être Dieu, bien sûr, mais pas forcément, ça peut être aussi ce qu'on appelle un transcendantal, par exemple le bon ou le bien. Vous savez qu'il y a beaucoup d'agnostiques qui croient fermement en la justice ou en la vérité, et vous savez d'ailleurs, Aude, qu'on dit que notre absolu est repérable à ce qu'on refuse d'en rire, donc chacun peut faire le test. Donc la beauté, quelle que soit l'échelle spirituelle qu'on emprunte, elle nécessite simplement qu'on se verticalise un petit peu. Parce qu'à défaut, on se condamne alors à en rester au charme du décoratif. Vous savez ce que disait Françoise Giroud, quand on regarde bas, on voit bas. Bon. Et peut-être que la seule condition pour recevoir les bienfaits du beau, c'est juste d'être capable d'admiration. Mais admirer, c'est admettre une excellence. Or, nous sommes actuellement dans des sociétés égalitaristes, même pas égalitaires, c'est plus que ça. Il y a une espèce de passion de l'égalité pour l'égalité, qui suscite plutôt des envieux que des admirateurs. Et vous savez qu'Hugo disait déjà, donc ça c'est au 19e, l'envie à l'éblouissement douloureux. Donc nos sociétés qui fabriquent des hommes du ressentiment, eh bien le ressentiment exècre l'admiration. Pour conserver l'estime d'eux-mêmes, les hommes du ressentiment, eh bien ils n'hésitent pas à dénigrer ce beau qui, croit-il, les dépasse. Or, admirer le beau, c'est pas reconnaître une grandeur qui nous dépasse et nous écraserait. Ça, c'est le sublime. C'est toujours ce problème de la confusion entre beauté et sublime. Tandis que la beauté, par l'admiration qu'elle suscite, elle nous nourrit, elle nous aide à grandir, elle nous stimule à faire de même, ou sinon mieux. Et au fond, on doit le meilleur de toute notre civilisation, dont une histoire de l'art qui est riche et tumultueuse, pas d'abord à l'envie ou au profit, même si ça existe, mais à l'admiration. Voilà. Donc je crois que c'est toujours très important de souligner ces liens entre beauté et spiritualité.
Merci, après... chère Christine. Et donc, j'en profite pour dire à nos auditeurs que le livre vient de sortir chez Bolène, le même éditeur que notre ami
Olivia Dufour.
Olivia, voilà. Et que nous en reparlerons, je pense, dans notre émission. Alors, chère Christine, donc maintenant,
oui, votre
chronique.
Après,
après
cette introduction sur les cimes, je vais revenir beaucoup plus au ras des pâquerettes avec les problèmes des beaux-arts qui, figurez-vous, hôtes, sont au régime sec. Et oui. Ils sont en piteux état, c'est que les canalisations risquent de rompre, les fondations qui sont au pieu de chêne, vous voyez, il n'y a pas que Venise qui a des fondations en bois, il y a aussi les Beaux-Arts de Paris qui ont des fondations en pieu de chêne, qui s'effondrent sous le palais des études, et il faudrait trouver 70 millions d'euros pour faire des travaux absolument nécessaires, et évidemment impossible de ponctionner ailleurs, parce que la culture, d'une manière générale, est partout à l'os, parce que tout notre patrimoine souffre d'un manque d'entretien qui résulte d'un sous-investissement qui dure depuis plusieurs décennies. Alors évidemment, au bout d'un moment, on en récolte les fruits vénéneux. Par exemple, au Musée national d'histoire naturelle, il manque d'urgence plus d'un milliard d'euros pour des bâtiments qui menacent de ruine. La galerie de paléontologie, elle est fermée parce que trop chaude en été, les visiteurs s'y trouvaient mal. Enfin, bon. Donc, si on revenons aux Beaux-Arts de Paris, les économies sont à l'ordre du jour. Parce que l'école vit quand même au-dessus de ses moyens. Elle cumule les déficits, à peu près c'est 1,5 million d'euros par an. Pas mal. Et à la faveur des arbitrages budgétaires, on apprend le coût annuel d'un étudiant, c'est-à-dire 12 500 euros, et on nous dit, mais c'est pas cher, parce que la moyenne nationale des écoles d'art, c'est 14 500 euros. Quand même pas mal d'écoles d'art subventionnées en France.
Il y en a 50 et quelques, je crois.
Voilà, avec bon, on n'a qu'à faire le calcul, enfin tout ça. Et puis surtout, si on se disait, on forme de futurs chefs d'entreprise qui vont implanter des sociétés, etc. Mais malheureusement, dans le domaine de l'art contemporain, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, donc il y a forte chance pour qu'on forme des chômeurs. Enfin, c'est quand même cher la formation d'un chômeur.
Et une des raisons que les régions ne veulent plus de ces écoles d'art...
Bah oui, parce qu'ils ont compris le
et après, c'est la région qui verse le RSA.
En plus.
Et donc, ils ne veulent pas payer de 140 000 pour avoir après un type au RSA en permanence.
Oui, c'est même pour le type qui est au RSA, ce n'est pas non plus une perspective de vie. Bon. Donc, à la prochaine rentrée, il n'y aura que 70 nouveaux étudiants, 10 de moins, plus une réduction des expositions et surtout la fin de séminaires de théorie, de chair qui portait sur le genre ou l'écologie. Et là, on découvre avec pas mal de curiosité d'ailleurs que, je cite, un certain nombre d'enseignants et la majorité des étudiants, j'ai bien dit la majorité des étudiants, se plaignent du fait qu'il y ait trop de cours théoriques. Et là, on se dit, mais c'est extraordinaire, des jeunes qui viennent aux Beaux-Arts pour peindre, dessiner, sculpter, graver, et non pas pour militer écolo ou queer. Et là, on se dit, mais ce qui serait devenu réac, c'est Jeunot. Bon. Et la disparition de cours aussi indispensables, donc vous mettez plein de guillemets autour d'indispensables, que, je cite, troubles, alliances et esthétiques, tout ça au pluriel, et bien sûr dénoncés par les gens qui sont évincés comme étant des, je cite, suppressions, répressions. Et le resserrement sur les fondamentaux de la pratique d'atelier et de l'histoire de l'art est axé, évidemment, toujours, je cite, de formation étriquée. Alors, il est même question, cher Aude, d'une galerie d'études avec la possibilité d'étudier des dessins anciens. Mais où est-ce qu'on va ? Si aux Beaux-Arts, on étudie des dessins anciens, vous vous rendez compte ? Bon. Donc, Éric de Chasset, qui est l'actuel directeur des Beaux-Arts et qui, le pauvre, essaie de sauver les meubles, est lucide, il dit, pour la jeune génération, Picasso, c'est aussi vieux que Raphaël, ça appartient au même monde, celui du passé. Et il faut dire que, finalement, le marché lui donne raison de dire ça. Parce qu'en février dernier, une carte Pokémon, qui s'intitule Pikachu Illustrator, a atteint 16,5 millions d'euros. C'est-à-dire deux fois plus que le record de Picasso pour une estampe.
Et deux fois plus que la banane scotchée.
Oh ben oui. Quatre fois plus qu'une gravure de Rembrandt vendue en 2025. Et alors, quand on regarde la tête de Pikachu Illustrator, de la fameuse carte à 16,5 millions d'euros, Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Pikachu, donc vous savez, ce petit monstre japonais jaune et très kawaii, hein, très mignon. Eh bien, il brandit un pinceau. Et là, on se dit, mince, encore un réac. Et l'acquéreur du Pikachu illustrateur, il lui a dit, mais pourquoi vous avez acheté un illustrateur à 16,5 millions d'euros ? Il a dit, ah, parce que je suis parti dans une chasse au trésor planétaire. Et il a affirmé sans embâche, Pokémon a une résonance culturelle bien plus forte qu'un tableau de Picasso. Sic. Bon. Donc, conclusion, Picasso est grand remplacé par Pokémon. Donc, les petits monstres japonais pourraient même aussi arriver au muséum, s'ils n'étaient pas en capillotade, bien sûr, parce que figurez-vous que 15 espèces animales et deux genres qui ont été découverts après le lancement de la franchise Pokémon ont reçu le nom d'une espèce de Pokémon. Et la mascotte Pikachu a même dénommé une protéine qui s'intitule la Pikachurine. Vous voyez, Picasso est vraiment grand remplacé parce que Picasso, lui, il n'a réussi à baptiser qu'une Citroën, le pauvre. Bon, mais qu'on se rassure, Anne-Claire Legendre arrive. Anne-Claire Legendre, c'est celle qui remplace Jack Lang à Lima, l'Institut du monde arabe, et elle vole au secours de l'art contemporain. Alors, à Lima, il faut dire aussi qu'il y a de gros problèmes de budget à Lima, parce que l'accord initial, vous savez, qui prévoyait 40% de financement par les pays arabes, eh bien, il n'est pas respecté. Bon. Mais, alors là, c'est très curieux, il y a un miracle, tout d'un coup, de l'argent, il y en aura pour créer en octobre un prix de l'art contemporain décerné à de jeunes artistes ou curateurs du monde arabe. Et là, Pikachu tient sa revanche, parce que là, Pikachu n'a aucune chance. En Arabie Saoudite, à Oman, au Qatar, à Dubaï, en Jordanie, en Égypte, de nombreux guides musulmans ont déclaré les Pokémon religieusement inacceptables. Vous avez même eu en Arabie Saoudite, dans 2001, une fatwa du grand moufti, alors je ne vais pas prononcer son nom parce que j'ai peur de l'abîmer, qui a interdit l'ensemble des produits Pokémon parce qu'il les assimilait à des jeux d'argent dangereux pour l'esprit des enfants. Enfin, il y avait une très longue liste de griefs contre les Pokémon. Et Aude, j'ai envie de terminer cette chronique, vous savez, comme l'écrivain Alexandre Vialat, qui finissait toutes ses chroniques par « Et c'est ainsi qu'Allah est grand ». C'est pas une profession de foi, mais le constat amusé d'un monde où le progrès fait rage, comme il disait. Alors, vous pouvez retrouver cette chronique sur mon blog, sourgins.fr, donc sourgins.fr, à la rubrique « Grain de sel du mardi ». Voilà, et vous pouvez vous inscrire pour recevoir les grains de sel. En général, c'est un mardi sur deux. C'est gratuit.
Chère Christine, merci beaucoup. Quel travail pour nous apporter tant d'informations et tant de détails sur un monde dont on ne parle pas tellement dans les journaux, n'est-ce pas ?
Il y a quand même... D'ailleurs, toutes mes chroniques sont sourcées. Hein, vous verrez les références. Je donne les références... dans toutes les chiffres que j'avance, etc. Mais
c'est pas la une des journaux, c'est-à-dire qu'il faut aller les chercher.
Voilà, il faut aller les chercher, tout à fait.
En tout cas, il y a un progrès aussi, parce que ce genre d'articles, on en voit maintenant quelques-uns, sont plus nombreux que, je dirais, avant le Covid. En particulier, dans le Monde, vous avez des articles critiques qui auraient été impensables... Avant le Covid, sur cet dysfonctionnement culturel de la France. C'est prudent, mais ça existe, alors que ça n'existait pas.
Ça finit par avoir une traduction financière. Comment ne pas en parler à partir du moment où il y a des fermetures, où il y a des conséquences drastiques.
C'est-à-dire que c'est aussi l'art qui est soutenu par le ministère de la Culture ne peut pas vivre sans subvention.
Et oui,
parce qu'il n'y a pas de public.
Où le gâteau rétrécit, il faut... là, vous avez un déchaînement des vous risquez d'avoir un affrontement de différentes tendances qui veulent garder une partie du gâteau.
Et donc, si les subventions disparaissent, tout ça disparaîtra d'un jour au lendemain. Parce que il n'y a pas de public, il n'y a pas de...
Ce qui disparaîtra, c'est l'hégémonie. C'est ça qui est le problème, d'ailleurs. C'est pas, le problème n'est pas que ça existe.
Non,
le
non, bien sûr, ça n'existe.
C'est que ça
n'a aucun...
en étouffant tout le reste. Ouais. C'est ça, le seul problème.
Ouais. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y a pas de concurrence... Enfin, maintenant, il y a une concurrence, mais il n'y en avait pas pendant longtemps, parce que quand on avait... quand on contrôlait les mass médias, on contrôlait tout ce qui pouvait être la visibilité d'un autre art. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible à cause d'Internet. Et cette impossibilité qui n'existait pas, je dirais, jusqu'à 2005, maintenant existe. Et il y a une concurrence qui fait que aussi l'hégémonie de l'art décidé par le ministère de la Culture a disparu. C'est un fait.
Il a encore cette hégémonie encore de Bourest.
Oui,
pour enfin. Faire le prix qui est créé à Lima.
Oui. Et donc, chère Christine, quels sont les futurs événements de votre livre en cinq tomes?
Alors là, nous en sommes au numéro 3, donc les bienfaits du beau, après l'anatomie de la beauté, qui était une sorte de... grande introduction générale et surtout qui visait à redonner consistance à cette notion qui a été très très déconstruite, mais redonner consistance sans la durcir, en lui donnant beaucoup de souplesse et en respectant une des caractéristiques du beau qui est le vivant. Moi je m'intéresse au beau qui est surtout le beau artistique puisque je suis historienne de l'art, mais je ne m'interdis pas du tout de faire des allées et venues avec le beau naturel qui souvent... est un modèle pour un certain nombre d'artistes, pas tous, mais pour beaucoup. Et puis ensuite, il y a eu Géographie de la beauté, qui expliquait les différents régimes de beauté, parce que la beauté est souvent victime d'une vision assez étroite, c'est-à-dire qu'il y a le joli,
mais
le
Christine,
beau...
Christine, là, il nous reste 30
voilà,
secondes.
Bon, voilà, donc... et puis, bon, là, nous en sommes aux bienfaits du beau. Tous les différents bienfaits, que ça va de la contemplation à la manière de muscler l'attention pour être plus présent au monde, etc. Enfin,
merci.
C'est énuméré dans ce livre.
Merci, voilà. Christine. Et on suit votre travail. À tout bientôt, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal de Dodo Queiroz, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 7 mai 2026 de 10h à 11h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.